Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un exploit réalisé il y a 101 ans par l'aviatrice française Adrienne Bolland. Le 1er avril 1921, à l'âge de 25 ans, elle réalise la traversée de la cordillère des Andes en 3 heures et des poussières dans le sens Argentine-Chili. Elle est seule à bord d'un Caudron G3, un avion mythique utilisé pendant la guerre 14-18, mais inadapté pour voler à haute altitude en montagne. Cet exploit est également une première pour une femme, performance inégalée aujourd'hui encore, dans ces conditions en tout cas. Une aventure on ne peut plus audacieuse quand on sait que 5 pilotes sont morts en tentant cette traversée insensée avant elle. Car en 1921, l'aviation est encore balbutiante. Les avions de toile et de bois sans cockpit sont rudimentaires et les accidents souvent fatals et nombreux. Quant aux femmes, elles sont plus dans leur cuisine à cette époque que sur les terrains d'aviation. Il fallait donc la volonté de faire, le courage et le petit grain de folie d'Adrienne Bolland, qui n'avait que quelques dizaines d'heures de vol à son compteur, pour défier cette muraille réputée infranchissable. Un pari réussi, grâce également, vous allez l'entendre, à un coup de pouce du destin. Notre invitée aujourd'hui, Katel Faria, autrice du livre « Les aventurières du ciel » aux éditions Point Venture, publié en juin 2021, soit juste un siècle après la traversée des Andes par Adrienne Bolland. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sophie Deschamps, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Premier avril 1921, 10h50 du matin, aéroport del Bosque, à 7 km de Santiago du Chili. En cette journée d'automne austral, un petit point noir grossit peu à peu en surgissant dans le ciel bleu azur. Un petit avion que l'on croirait de papier, puis s'approche du tarmac où il atterrit pile poil sur le drapeau français déroulé pour l'occasion. Quelques instants plus tard, c'est un petit bout de femme transite froid, le visage en sang à cause de l'altitude et à bout de force que l'on extrait de sa nacelle. Elle est revêtue d'un pyjama de soie qui cache une armure de fortune en papier journal contre le froid. Mais pour en arriver là, il lui a fallu dépasser bien d'autres obstacles. Tout commence pour Adrienne Bolland sur un champ de course hippique à l'automne 1919, près de Paris. Après les privations de la Grande Guerre, tout le monde veut goûter aux joies et aux plaisirs de la paix retrouvée. Adrienne a 24 ans, elle n'a que le certificat d'études en poche et surtout, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Alors elle joue aux courses, misant à pile ou face ses maigres économies. Mais comme elle n'y connaît pas grand-chose, elle perd. Aujourd'hui pourtant, elle en est sûre, le cheval sur lequel elle a misé ses derniers francs va franchir en premier la ligne d'arrivée. Voilà. Hélas, il échoue. Et Adrienne est ruinée. Le soir, dans un cabaret de Montmartre, elle noie son chagrin dans les bulles de champagne, entourée de ses amis. Vite éméchée, elle s'exclame soudain, « Cette fois les courses, c'est fini, je vais devenir aviatrice !» Une vocation subite façon Jeanne d'Arc? Pas du tout. Comme elle le dit le 19 avril 72 en radioscopie au micro de Jacques Chancel sur France Inter.
J'ai pas entendu de voix, je n'avais pas la vocation.
Mais des parents peut-être qui vous en parlaient.
Mais pas du tout, pas du tout. Mon père était un intellectuel anti-sportif. Alors, vous savez, je n'ai pas été élevé dans ce genre d'idées. J'ai décidé de faire de l'aviation parce que je voulais faire quelque chose et que je voulais prendre une carrière dans un endroit qui était peu encombré par les femmes. Alors, il y en avait à ce moment-là qu'une qui était la baronne de La Roche et elle venait de se tuer. Alors, il n'y avait plus personne, c'était pas encombré, je suis rentré.
À la table voisine, un homme entend l'extravagante déclaration. Il se lève et poliment se présente à Adrienne. Celle-ci le rabroue sèchement, croyant qu'il veut lui faire du gringue, comme on dit alors à l'époque. La draguer, quoi. Mais l'homme lui tend une carte de visite.
Pardonnez-moi, mais j'ai entendu votre conversation. Justement, l'un de mes amis, René Caudron, est avionneur. Présentez-vous à lui demain de ma part à son usine d'Issy-les-Moulineaux. Il offre une ristourne de 50% à tous ceux qui suivront sa formation de pilote d'avion.
Ça tombe bien, Adrienne n'a plus rien à perdre. C'est ainsi qu'elle arrive au Crotoy, dans la baie de Somme, le 16 novembre 1919, où Nicole Caudron a élu domicile. Alors qu'elle n'a jamais vu un avion de près, elle se révèle si douée qu'elle obtient son brevet de pilote le 26 janvier 1920. Elle enchaîne ensuite les défis de façon insolente. Première femme à faire un looping en janvier 1920, puis la première à traverser la Manche le 25 août de la même année, le tout quelques semaines après avoir obtenu son brevet. Elle a la main, Adrienne, comme on dit dans le milieu de l'aviation. Mais très vite, la jeune femme s'ennuie. Mais elle rêve d'aventure et de grands espaces. Il faut dire qu'elle a été à bonne école. Tout d'abord avec son père Henri, rédacteur des Guides Johann, qui deviendront les fameux guides de voyage Hachette, et avec son frère Benoît, de 10 ans son aîné, qu'elle idolâtre. Ce dernier a été marin sur le navire le Pourquoi Pas, lors d'une expédition scientifique qu'il a menée en Antarctique de 1909 à 1910. Alors autant dire qu'avec ces deux-là, elle a déjà un avant-goût des contrées lointaines. Certes, elle est fière d'être la première femme à avoir traversé la Manche, mais elle en veut plus. Mais ça tombe bien, encore une fois, la maison Caudron envisage une grande tournée en Amérique du Sud pour vendre ses avions outre-Atlantique. Adrienne y voit l'occasion de s'éloigner du Crotoy. C'est ainsi que le samedi 4 décembre 1920, elle embarque à Bordeaux à bord du luxueux paquebot Le Lutetia afin de rallier Buenos Aires en Argentine. Elle voyage en compagnie d'un mécanicien en qui elle a toute confiance, René Dupérier. En Amérique du Sud, Adrienne doit remplir une triple mission. Faire briller outre-Atlantique le prestige de l'aviation française, obtenir des commandes d'avions pour son patron, René Caudron, et surtout, dans un second temps, franchir la cordillère des Andes. Deux G3 Caudron sont ainsi acheminés par cargo en pièces détachées. La jeune pilote arrive enfin le 23 décembre 1920 à Buenos Aires, sous un soleil torride. Parce que c'est l'été là-bas, les saisons sont inversées. Adrienne prend son mal en patience dans le grand hôtel Majestic où elle loge. Et elle en profite pour se promener un peu dans les rues de la capitale argentine. Elle est accueillie avec enthousiasme par la communauté française qui a suivi ses exploits en métropole. Elle donne aussi une conférence de presse dès son arrivée. Et elle laisse entendre qu'en réalité, elle n'est là que pour passer la cordillère des Andes. L'aviatrice, devenue VIP, estime toutefois qu'elle ne peut pas relever ce défi ambitieux avec un G3 Caudron qui reste un avion assez sommaire et fragile, comme le décrit Rosaine De Clementi, conservatrice du Musée de l'air et de l'espace, lors du colloque consacré en 2021 au centenaire de l'exploit d'Adrienne.
Il fait partie, avec le G1 et le G2, d'une série d'aéronefs qui ont été mis au point par les frères Caudron à partir de 1913. Ce sont des avions biplans en bois étoile, une toile enduite, et dont les plans sont semi-souples, donc c'est-à-dire que les nervures ont une certaine flexibilité qui permettent le gauchissement, donc la torsion des ailes pour que le pilote puisse se diriger.
De plus, à bord, il n'y a ni ceinture de sécurité, ni instrument de navigation, et encore moins de carte. Seul un altimètre lui indique la hauteur à laquelle elle vole. Et c'est bien ce qui l'inquiète puisqu'elle devra évoluer à plus de 4000 mètres, alors que le G3 et ses 80 chevaux ne peut en principe aller plus haut. Et puis elle est à l'air libre dans cet avion, alors que là-haut elle va affronter des températures polaires, autour de moins 20 degrés. Elle doit donc trouver une solution pour se protéger au maximum du froid. Enfin, pour couronner le tout, son réservoir d'essence lui offre seulement 4 petites heures de vol, c'est peu, beaucoup trop peu. Elle demande donc à René Caudron de lui envoyer un avion plus puissant, plus moderne. Mais les semaines passent et rien. Enfin, un télégramme arrive, limpide. Impossible à envoyer autre avion, prends décision toi-même, René. C'est un peu plus clair, elle doit se débrouiller avec son G3. Soit. Mais elle sait qu'elle ne peut plus reculer sans risquer de se ridiculiser, de passer pour une trouillarde, et ça, pas question. Alors tant pis si elle doit y laisser sa vie. Fin mars 1921, elle prend donc le train avec son mécanicien du Perrier pour s'installer au grand hôtel de Mendoza, toujours en Argentine, au pied de la fameuse cordillère. Mais la veille du départ de Buenos Aires, une femme frappe à sa porte. Elle lui dit détenir une information de la plus haute importance concernant son vol. Adrienne raconte au micro de Jacques Chancel.
C'est un médium que je n'ai
mais
pas
c'est
demandé.
C'est une histoire vraie.
Ah oui, c'est tout à fait vrai. C'est une bonne femme que j'ai prise pour une folle parce que je ne l'avais pas demandé. Alors elle est arrivée, elle m'a trouvée à mon hôtel au moment où je partais pour Mendoza. Et alors, cette femme, je l'ai prise pour une dingue. Je lui ai dit, écoutez, moi je vais fumer une cigarette, pendant ce temps-là vous me racontez vos petites histoires, et puis après il faut me foutre le camp et la paix. Et alors cette pauvre fille m'a expliqué, enfin elle m'a fait un véritable plan de vol.
Oui, on en reparlera de cette pauvre fille. Mais revenons à Mendoza. Une fois sur place, les militaires prêtent un hangar à Adrienne, entouré d'un champ qui a déjà servi de piste d'atterrissage à deux avions. Mais il est en très mauvais état. Adrienne doit elle-même arracher l'herbe pour refaire une piste afin de s'entraîner avant le grand jour. Bien que ne parlant pas espagnol, elle fait la connaissance d'un vieux paysan andin pour lequel la cordillère n'a pas de secret. Aidé par Crochard, un autre mécanicien qui bichonne son avion et qui connaît un peu le dialecte local, le vieil indien lui fait cadeau d'une indication précieuse. Quand les montagnes se découvrent par le côté sud, elle est sûre de ne pas trouver ce maudit brouillard sur son trajet. Puis il lui tend un oignon épluché. En le mâchant en altitude, il l'aidera à respirer. Le masque à oxygène du pauvre. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Duperrier découvre qu'il a oublié de prendre une magnéto neuve, une pièce maîtresse de l'appareil qui permet de transformer l'énergie mécanique produite par la rotation du moteur en énergie électrique par l'intermédiaire d'un aimant. Or, il faut absolument qu'il aille en chercher une neuve, soit 5 jours d'attente supplémentaire. Du coup, Duperrier en profite pour installer sur le G3 un second réservoir, ce qui lui donne à présent 8 heures d'autonomie, et ça n'est pas rien. Le 31 mars, Adrienne effectue enfin son premier vol de reconnaissance. Mais loin de la rassurer, celui-ci lui fait mesurer l'énormité du défi qu'elle s'impose face au monstre de pierre qu'elle doit franchir pour atteindre le Chili. Là-haut, en plus de la hauteur et du froid qui la congèle, littéralement, la jeune pilote sait qu'elle devra affronter des vents ascendants redoutables, des vents qui risquent de projeter son frêle avion sur la paroi, et elle avec. Sans compter qu'elle affiche à peine 40 heures de vol au compteur.
Quand je suis allée sur les contreforts, je suis revenue désespérée parce que jamais j'avais survolé une montagne. Juste les collines de Picardie à mon actif, et ça n'avait rien à voir avec les Andes. Je n'ai rien dit, mais enfin, je crois que j'avais quand même les larmes qui me coulaient des yeux, parce que j'ai dit « jamais je ne passerai ça, jamais ».
Malgré tout, Adrienne garde le moral. Elle se prépare physiquement et mentalement. Seulement voilà, elle ne sait pas quel jour elle va partir. Dans l'aviation, c'est la météo et elle seule qui décide. Il faut absolument une aube ensoleillée, sans nuages et surtout, sans brouillard. Parce que piloter dans la crasse, comme disent les pilotes, c'est la mort assurée. Le miracle se produit dès le lendemain de son vol d'essai, le 1er avril 1921. Donc, à 4h du matin, Ernesto, le patron de l'hôtel, la réveille pour lui indiquer que côté météo, la voie est libre. Alors pour ne pas trop gamberger, pas avoir peur, la jeune femme se prépare minutieusement à lutter contre le froid.
Comme je n'avais pas les moyens d'acheter des lainages, alors j'étais tout enroulée de papier. J'avais simplement un pyjama de soie. J'avais remis du papier entre le pyjama et ma combinaison. Et je m'étais enroulée les doigts avec des petites bandelettes de papier pour que mes mains ne gèlent pas en l'air. J'avais rien dans les pieds qu'une grosse paire de chaussettes de laine.
De son côté, Ernesto lui tend solennellement un torchon qui contient les précieux oignons. Duperrier aussi quelque chose pour elle. Un poignard et un revolver. Un ange passe. Puis le mécano explique. Le poignard, c'est si vous êtes attaqué par un condor. Le revolver, c'est pour vous tirer une balle dans la tête si vous tombez dans un endroit inaccessible où l'on ne pourra jamais venir vous chercher. Ambiance. Alors, crânement, Adrien monte dans le taxi qui la conduit sur la base aérienne de Los Tamarindos. Quelle pensée l'agite à ce moment précis? Revoit-elle sa vie en accéléré? Se concentre-t-elle sur le parcours ou se remémore-t-elle les conseils de la jeune femme à l'hôtel de Buenos Aires? Sur le tarmac, elle est accueillie par une poignée de militaires à la mine sombre. Quelques journalistes, Ernesto et bien sûr Rochard et Dupérieux, ses deux fidèles mécanos. Tous sont à peu près persuadés que c'est sa dépouille qui va retourner en France. Alors, pour ne pas se laisser gagner elle aussi par l'angoisse, Adrienne hâte sa montée dans l'avion.
Le matin du départ, c'était un peu lugubre parce que les gens qui m'ont amené là, il y en avait qui pleuraient en disant « on a amené les autres, on ne les a jamais revus ». Alors j'ai dit à mon mécanicien qui n'est pas venu avec moi, j'ai passé seul. Je lui ai dit « mettez-moi vite en route parce que moi dans 5 minutes, je ne pars plus ».
Oui, pour un peu, c'est elle qui remontrait le moral de tout le monde. Bien sûr, elle a peur. Bien sûr, elle est terrorisée même. Mais il est trop tard pour reculer. À 6h32, elle décolle enfin.
Affaires sensibles sur France Inter.
Le ciel est clair. Et pour Adrienne, le début du trajet est familier puisqu'elle l'a déjà testé la veille lors de son vol de reconnaissance. Pour se repérer, elle suit au sol les courbes du fleuve Rio Mendoza ainsi que le tracé de la ligne de chemin de fer du Transandin qui relie Buenos Aires à Valparaiso. On peut aussi imaginer qu'elle prend le temps de contempler le paysage grandiose qui s'offre à elle, car elle sait qu'elle le voit pour la première et probablement la dernière fois. Mais après c'est l'inconnu. Et dès qu'elle pénètre au-dessus de la vallée de Luspalata, les choses sérieuses commencent. Et comme elle le redoutait, les vents ascendants la saisissent, la secouant sévèrement, et surtout, ils lui font perdre de l'altitude et faire du surplace quand elle ne recule pas.
Mickey Raffio avance! Et avance! Qu'est-ce qui m'a collé une limace pareille? Si je m'en sors, t'es bon pour la casse. Parole. Si je m'en sors pas, pareil. T'auras de mes nouvelles. Allez, Rafio, c'est le moment de sortir tes tripes. Montre-leur à tous que t'as un petit quelque chose sous le moteur. Que t'es un sacré engin. Tu la tiens, ton heure de gloire, à portée d'elle. Avance, bon sang.
Adrienne fait face et résiste, tout comme son moteur sécurisé par la magnéto toute neuve. Évidemment, elle est déjà à transit froid et elle commence à grignoter ses oignons. Comble de malheur, en voulant réajuster ses lunettes, la lanière congelée cède, envoyant la précieuse monture dans les airs, perdue à tout jamais. Mais le plus dur est encore à venir quand la montagne se dresse face à elle, impériale. Elle le sait, les sommets à plus de 6000 mètres sont inatteignables avec son vieux coucou. Plus bas, ce sont des rochers acérés qui l'attendent, si par malheur elle se crache. Mais Adrienne y croit toujours. Obstinée, elle parvient tant bien que mal à Puente de l'Anca, où elle passe devant le Christ des Andes, une statue en bronze de 7 mètres de haut érigée à cet endroit le 13 mars 1904, afin de commémorer l'accord de paix obtenu entre le Chili et l'Argentine. Elle le sait, elle est tout près de la frontière, mais il lui faut passer à présent cette terrifiante muraille de pierre. Bientôt, jetant un regard en bas sur le côté, impossible de regarder devant avec un jet-3, elle aperçoit le fameux lac dont la voyante lui avait parlé. Vous savez, cette pauvre fille de tout à l'heure. Impossible de se tromper. Il est vert et il a bien une forme d'huître, comme elle le lui a indiqué. Et ses paroles lui reviennent alors en boumang.
Si vous passez par la droite, vous allez vous écraser. Passez par la gauche. Longez les parois de la montagne, celle en forme de dossier de chaise renversée. Et vous trouverez une ouverture.
Cette femme ne lui a pas menti. Effectivement, la tentation est grande de virer sur la droite, car la route paraît plus facile. Mais elle se souvient aussitôt que 5 pilotes ont déjà péri en voulant emprunter cette voie, justement. Alors elle décide de faire confiance à cette femme, et elle vire à gauche. Et là, précisément, c'est l'instant de vérité. Parce que ça passe ou ça casse, et si ça casse, elle y laisse sa peau et ses projets d'avenir à 25 ans. Mais soudain, elle aperçoit une brèche entre deux sommets, là, juste au-dessus d'elle. Son altimètre lui indique 4000 mètres. Le G3 ne peut théoriquement pas aller plus haut, mais Adrienne, qui a la réputation d'avoir le sens du vent, se colle d'instinct à la paroi afin de bénéficier des courants ascendants et de faire monter l'appareil, mètre après mètre, jusqu'à atteindre 4280 mètres. Le vieux coucou peut alors s'engouffrer dans la brèche et il passe. L'aviatrice est maintenant dans un couloir étroit entre deux parois de montagne peu avenantes, dont elle sait qu'elle ne pourra pas atteindre le sommet. Alors, vaillamment, elle serre ses poings gelés et s'accroche à son zingue, refusant d'abandonner si pris de but. Mais le couloir est interminable. C'en est fini, elle va échouer et personne ne saura jamais ce qu'elle a déjà réussi à faire. C'était un exploit à lui tout seul. Mais ce 1er avril 1921 n'est pas avare de miracles. C'est Colline Berry, pilote et autrice du livre Adrienne Bolland et les ailes de la liberté, qui nous raconte la suite.
Elle n'a pas de bouteille d'oxygène, qu'elle n'a pas de ceinture. Si, elle s'est fait mettre une ceinture de sécurité quand même. Mais elle n'a rien, elle a juste de l'eau qui a gelé, son altimètre a gelé. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle continue à gauche. Ses roues frôlent la montagne, dira-t-elle. Et puis à un moment donné, effectivement... Miracle, la chaleur de la montagne rouge va la faire s'élever et dira qu'elle l'a sentie comme une main qui la prenait et elle passe.
Une trouée dont elle finit bientôt par comprendre qu'il s'agit de l'océan Pacifique et donc du Chili. Voilà, elle a réussi. Oui, elle est passée. Et la frêle Adrienne Bolland, avec son courage, sa détermination et bien sûr aussi un peu de chance, devient d'un seul coup la première femme à traverser la cordillère des Andes d'une traite, là où tant d'autres ont échoué avant elle. Elle a parcouru 230 km en 3h38 minutes, très exactement. Seuls trois aviateurs ont réussi cette traversée avant elle, à chaque fois avec des avions français. Alors, elle met ses dernières forces pour un atterrissage impeccable à l'aéroport del Bosque, situé à 7 km de la capitale, Santiago. Involontairement, elle s'arrête exactement sur le drapeau tricolore déployé à terre pour saluer cet exploit français. Évidemment, les militaires l'attendent du côté ouest de la Cordillère, comme elle le raconte avec fierté en 1972 à Jacques Chancel.
Les appareils chiliens étaient venus à ma rencontre. Quand je suis arrivé à Santiago, les garçons qui étaient venus, l'escadrille qui avait décollé pour venir à ma rencontre, étaient allés par le sud, parce que tous les autres étaient arrivés par le sud. Et quand ils sont revenus, et moi j'étais déjà posé, on m'a dit, mais comment elle, on ne l'a pas vu? Non, parce que moi j'étais arrivé justement, directement sur Santiago. J'avais pas de carte, j'avais pas de compas, j'avais rien. Au pifomètre.
Sur place, l'accueil est délirant. Et c'est à peine si elle entend les vivas, les applaudissements et la Marseillaise jouer en son honneur. Les larmes d'angoisse de ses amis, des Chiliennes et des Chiliens venus l'accueillir, sont à présent des larmes de joie. Adrienne est allée au bout d'elle-même et de ses forces. Dès lors, elle se laisse faire. Des bras vigoureux la saisissent pour l'extraire de son biplan qui lui aussi est allé au bout de ses possibilités. Mais elle doit faire un dernier effort. Elle réclame alors un café et un miroir pour voir l'état de son visage tuméfié par le froid et le manque d'air. En outre, l'attitude l'a fait saigner des narines et de la bouche. Heureusement, sans gravité, et bien sûr, elle est hirsute. Mais ce que tous remarquent aussitôt, c'est son immense sourire et sa fierté d'être passée. Toutefois, le représentant de l'ambassadeur de France manque à l'appel. Le vol ayant eu lieu un 1er avril, il a tout simplement cru à un canular, un poisson d'avril, et a refusé de se déplacer. Il s'en mordra les doigts. Un épisode cocasse et drôle que raconte Adrienne.
Alors à 5h du soir, moi j'ai tout de même, je ne voulais plus attendre et j'avais décidé de prendre un bain pour me remettre un petit peu dans l'ambiance. Et j'étais dans la salle de bain, on frappe, je dis qu'est-ce que c'est? On dit c'est le ministre de France. Je dis comment le ministre de France, c'est à cette heure-ci que vous arrivez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il m'a dit, oui je vous demande de m'excuser, je croyais, c'est le 1er avril, je croyais que c'était un poisson. Alors j'ai dit, ben oui c'est même tellement un poisson qu'il est dans l'eau le poisson. Naturellement après tout s'est arrangé, parce que j'ai vu que c'était tout de même qu'un malentendu.
Mais pour l'instant Adrienne fait une grosse sieste de 5 heures, bien méritée, dont elle sort un peu ragaillardie. Son visage a été nettoyé et il commence à dégonfler. Elle peut enfin se montrer en public, même si elle porte encore son pyjama de soie, fort élégant en demeurant. Une voiture décapotable l'emmène alors à Santiago du Chili. Une foule joyeuse et enthousiaste l'acclame tout au long des 7 km qui séparent l'aéroport de la capitale et que le cortège mettra 2 heures à parcourir. Le temps d'un vol, d'un exploit, Adrienne est devenue une vedette dans le cœur du peuple chilien et argentin. Un amour et une fierté qui durent encore aujourd'hui. Oui. Là-bas, on l'appelle la deuxième Jeanne d'Arc. Dès le lendemain, elle fait la une de tous les journaux chiliens et argentins qui saluent l'exploit de la jeune aviatrice. On peut lire ainsi dans La Nación.
Mademoiselle Bolland n'ignorait aucune des difficultés de son projet. Et elle a droit à notre admiration pour avoir regardé, avec une aussi froide indifférence, les perspectives fatales que les côtés favorables. Elle s'est fiée plus en sa destinée qu'en des calculs problématiques.
De son côté, le courrier de La Plata du 4 avril 1921 retranscrit une dépêche de la Chambre de commerce française de Buenos Aires adressée à Adrienne Bolland sous forme de télégramme.
Au nom Chambre commerce, télégraphions Caudron Paris. Félicitations que notre grand industriel mérite autant comme auteur d'appareils désormais célèbre que pour découverte glorieuse de la française dont nous admirons maîtrise, charme et modestie.
Le 5 avril 1921, soit seulement 4 jours après son exploit, Adrienne Bolland est décorée de la Croix du Mérite, la plus haute distinction au Chili. Une récompense largement méritée, si l'on considère les possibilités techniques limitées de son vieux Caudron G3. En France, elle devra attendre 1924 pour recevoir la Légion d'honneur, car on la considère comme étant trop jeune. Nul n'est prophète dans son pays, c'est bien connu. Mais ce n'est pas tout. Une firme de cinéma veut tourner un film sur son exploit. Nullement flattée, Adrienne Bolland racontera plus tard. Ils l'ont fait leur film, mais sans moi. Elle sait aussi qu'elle doit une fière chandelle à celle qui lui a indiqué la route à suivre. La route de ces deux femmes se recroisera d'ailleurs.
Ah, je l'ai revue 2 fois. Je l'ai revue d'abord quand je suis revenue à Buenos Aires. C'était un médium. En 61, je suis retournée en Argentine pour le 40e anniversaire de ma traversée. Et j'ai revu cette femme. Et j'avoue que ça a été, pour elle et pour moi, une très grande émotion de la retrouver. Comprends? Parce que si j'ai passé, il faut que je voie les choses froidement. C'est grâce à elle. Parce que j'aurais certainement tourné à droite.
De la pauvre fille à la femme providentielle. Mais rien ni personne n'arrête l'intrépide Bolland, qui, juste après son exploit, rêve déjà de faire depuis le Brésil un raid en hydravion entre Rio de Janeiro et Buenos Aires, en compagnie de son fidèle Duperrier. Ce qui serait à nouveau une première pour Adrienne. Mais cette fois, elle casse son hélice et doit amerrir en urgence. Elle manque d'ailleurs d'y laisser sa peau, encore une fois. Elle et son mécanicien sont sauvés, in extremis, après avoir erré de longues semaines dans l'enfer de la jungle brésilienne, sans vivre, capturés par des Indiens, puis relâchés. Pire, les médecins veulent l'amputer d'une de ses jambes, attaquée par les vers. Elle refuse net, à juste titre, puisque sa jambe est sauvée, grâce à des bains de soufre, et elle remarche quelques semaines plus tard. Car le danger et ses conséquences, Adrienne s'en moque. Mieux. Le danger, c'est le fil rouge de sa vie, comme elle le confie au micro de Jacques Chancel en 72.
J'ai eu tout le temps peur dans ma vie. Mais moi, ça me plaît. Où j'ai peur, j'y vais.
Aujourd'hui, vous avez encore peur?
C'est-à-dire que si je vois un endroit où il y a un peu de danger, j'y cours. C'est malgré moi. J'ai besoin de trembler.
Trembler, c'est vivre pour vous?
Ah oui. C'est prendre sur soi, c'est... Parce que je n'ai jamais connu la peur panique. J'ai connu la lutte avec la peur. Et alors, ce qui me faisait plaisir, c'est que quand même, j'étais plus forte que ma peur.
Ça s'appelle l'audace, qui la suivra encore longtemps, puisqu'elle sera aussi résistante durant la Seconde Guerre mondiale, dans le Loiret. Elle sera même tentée de chipper un avion au nez à la barbe de nazis en Sologne. Elle y renoncera, tout de même, par crainte des représailles ennemies envers ses camarades. Elle sera enfin l'une des rares pilotes de sa génération à mourir de vieillesse dans son appartement parisien le 17 mars 1975, à l'âge de 79 ans. Aujourd'hui, des rues et des écoles portent son nom, ainsi que, et c'est la moindre des choses, un hangar à l'aéroport d'Orly. Sa mémoire est bien sûr aussi précieusement conservée au musée de l'air et de l'espace. Aux héroïnes, la patrie reconnaissante.
All my bags are packed, I'm ready to go. Standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting and he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I've played around. I tell you now, they didn't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring you a wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Plane. I don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again.
to go.
Aujourd'hui, Affaires Sensibles prend de la hauteur avec l'exploit et l'histoire d'Adrienne Bolland, dont nous allons parler avec notre invitée, Katel Faria. Bonjour.
Bonjour Fabrice Wall.
Vous êtes l'autrice du livre Les Aventurières du Ciel, édition Point Aventure, publié donc en juin 2021, juste un siècle après l'exploit. Vous racontez dans ce livre le parcours de 6 aviatrices exceptionnelles qui ont vécu les débuts de l'aviation. Adrienne Bolland donc, on y reviendra évidemment tout de suite, mais aussi... Beryl Markham.
Markham,
voilà. Je voulais bien la prononcer pour faire semblant de la connaître, c'est raté. Beryl Markham. Hélène Boucher, Maryse Bastier, Bessie Coleman et Maryse Hills. Pourquoi celles-ci? Pourquoi les avez-vous choisies? Adrienne Bolland, on y revient juste après, bien sûr.
Alors d'abord, j'ai...
Les 5, là.
Oui, j'ai choisi de me focaliser sur ce qu'on appelle l'époque héroïque de l'aviation, donc qui ne correspond pas au balbutiement, mais vraiment l'époque des grands records et des exploits, qui est probablement la plus exaltante et la plus fascinante pour le grand public. Et pour choisir ces 6 femmes, enfin, les 5 à part Adrienne Bolland, je me suis fondée sur 2 critères. Je dirais que d'abord, j'ai voulu choisir des femmes qui avaient vraiment accompli de très grandes choses, des exploits incontestables et vraiment très spectaculaires. Et ensuite, l'autre critère n'était pas du tout objectif, mais purement subjectif. Je voulais des femmes attachantes et des femmes qui, à moi, m'avaient plu par leur caractère. Et j'ai tenu aussi à mettre en avant un certain nombre de Françaises, donc 4 sur les 6, puisque je parle aussi d'une Américaine et d'une Anglaise qui a passé toute sa vie, la moitié de sa vie au Kenya. Et voilà, je tenais à faire redécouvrir ces 4 grandes pionnières françaises, parce qu'il faut rappeler quand même que la France est le grand pays de l'époque pionnière de l'aviation.
Et Hélène Boucher se tue, hein?
Oui.
À 26 ans, quelles sont les circonstances?
Alors écoutez, elle se tue pendant un entraînement sur le Caudron Rafale, l'avion qui lui aura permis de battre son grand record de vitesse. Et elle se tue de manière tragique après avoir été la comète de l'aviation, c'est-à-dire qu'elle a commencé à piloter à 23 ans et qui se tue 3 ans plus tard à 26 ans en pleine gloire. Donc une histoire purement tragique. De grande héroïne. D'ailleurs, c'est un nom souvent qu'on connaît assez mal les pionnières de l'aviation de cette époque-là, mais souvent le nom d'Hélène Boucher est connu. C'est une figure qui a marqué parce qu'en plus elle était très touchante. Donc son histoire touche beaucoup.
Alors, l'audace, le risque, l'exploit, c'est pas genré, je veux dire. C'est-à-dire que ça appartient autant aux femmes qu'aux hommes.
Oui,
voilà, ça dépend des femmes et des hommes que l'on croise. Mais pourquoi avoir fait un livre sur les aviatrices?
Alors écoutez, déjà c'était une proposition de mon éditeur et souvent je
Il s'est dit tiens, ça c'est un angle, ça va marcher.
Oui, tout à fait, mais j'ai regretté après coup de ne pas y avoir pensé moi-même parce que je me suis complètement enthousiasmée pour l'histoire, même passionnée pour l'histoire de ces femmes et je trouvais ça intéressant de parler de ces aviatrices parce que c'est vrai qu'on les connaît beaucoup moins que les hommes. Je trouve que de manière générale, on a beaucoup oublié les pionniers de l'aviation mais les femmes particulièrement, c'est vrai.
Oubliez surtout les pionnières. Voilà.
Oui, les pionnières.
Oui, non, mais c'est une bonne raison, écoutez. Alors, vous ouvrez votre livre, c'est pas anodin, il y a une hiérarchie dans ce qu'on veut raconter, on met le plus important au début, en principe. Vous ouvrez votre livre avec l'histoire d'Adrienne Bolland, justement. Elle a un petit quelque chose de plus que les autres?
Alors, écoutez, je veux dire que peut-être, comme les parents disent qu'ils n'ont pas d'enfant préféré, on ne peut jamais dire qu'on en... Voilà, quand je ne peux pas dire que je préfère une de ces aviatrices par rapport aux autres, mais c'est vrai que j'aimais l'idée d'ouvrir ce livre avec un exploit vraiment spectaculaire, la traversée de la Cordillère des Andes, c'est quelque chose de vraiment très prenant. Vous l'avez très bien raconté, Adrienne fait cette traversée dans des conditions vraiment extrêmement difficiles et je voulais vraiment qu'on vive avec elle dans le cockpit. En plus, elle a accompli un exploit vraiment extraordinaire. Donc plusieurs pilotes ont traversé la Cordillère des Andes, mais en cet endroit-là, elle est vraiment le premier pilote, femme et homme confondus. Donc c'est un exploit incroyable et puis je dois avouer en plus que j'ai un petit faible pour son caractère de cochon. C'est un tout petit bout de femme tout sec, mais grande gueule. On l'appelait l'irrévérencieuse mademoiselle Bolland. Et c'est un personnage assez fantasque et c'est assez drôle de savoir qu'elle a passé une partie de son enfance dans la maison qui a appartenu autrefois à l'auteur du personnage de Rocambole et qui a donné le mot rocambolesque. Mmh. Rocambolesque, c'est un mot qui définit merveilleusement bien Adrienne Bolland. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection, d'admiration, mais aussi d'affection pour elle. Je me dis que c'était aussi une bonne vivante. Vous parlez beaucoup de champagne, en effet. C'est une femme qui aimait aussi faire la fête et je me dis que j'aurais beaucoup aimé partager une bouteille de champagne avec elle.
Mmh. Vous arrivez là. La rencontrer, parler avec elle.
Oui, j'aurais tout aimé les rencontrer, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... Voilà, j'aime son caractère, c'est une femme formidable.
Elle est morte, vous n'étiez pas née, probablement, donc c'était difficile. Oui. Comment ça se manifestait, ce caractère bien trempé
Écoutez, il y a une histoire absolument... très, très amusante. Un jour, elle est en train de se préparer avant un grand meeting et le ministre de l'air de l'époque, le nom m'échappe à l'instant, vient la voir pour la saluer. Ils sont très amis, ils s'entendent très bien. Il veut la saluer, mais elle ne répond pas lorsqu'il l'appelle. Et donc, bon, il finit par se dire qu'il va la laisser tranquille. Il s'éloigne et à ce moment-là, un général de l'armée de l'air arrive vers Adrienne et lui dit « Mais enfin, vous vous rendez compte que monsieur le ministre est en train de vous saluer ?» Et à ce moment-là, Adrienne se redresse et dit « Ah, monsieur le ministre, en effet, je ne vous avais pas vu, mais maintenant que je vous vois, je vous dit merde, et vous dit cela alors qu'elle est entourée de journalistes, elle sait très bien comment amuser justement, jouer avec l'intérêt des journalistes, et donc bien sûr le lendemain, sans répéter le mot de Cambronne, tous les journaux titrent l'irrévérencieuse Mademoiselle Bolland, et ça c'était vraiment, ça faisait partie de son caractère et aussi de son personnage, c'est ça que j'aime bien chez Adrienne, c'est que c'est vraiment un personnage de roman très paradoxal et qui en même temps est très attachante parce qu'elle donne l'impression de se moquer de tout, et pourtant, elle a vraiment une certaine idée de la grandeur et du devoir qu'on voit très bien dans son parcours de vie. Parce que, par exemple, ça a été une résistante,
oui,
comme la plupart de ses Françaises.
On l'a dit d'ailleurs dans le récit, c'est important.
Oui, elle a été résistante pendant l'occupation. C'est une femme qui dit détester les militaires et en même temps, elle était prête à risquer sa vie pour son pays ou pour des causes qui la dépassaient de manière générale. Oui, c'est une femme que je trouve vraiment admirable.
Est-ce que son identité de femme, pour le coup, a compté dans cette façon de vivre? Est-ce qu'elle avait conscience d'être une femme, évidemment, mais que c'était un statut pas forcément facile? Je crois que toutes ces femmes attachantes dont vous parlez ont dû batailler pour monter dans les cockpits.
Oui, elles ont dû batailler, c'est certain. Alors avec Adrienne, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus elle avait un côté très... souvent ces femmes étaient très féminines, tout en étant très garçon manqué. Donc elles pouvaient être presque viriles quand elles étaient sur le terrain. Et Adrienne Bolland n'hésitait pas à donner des gifles à ses camarades si elle les trouvait un petit peu hautains. Et en même temps, il partageait vraiment avec une vraie camaraderie avec la plupart d'entre eux. Et ça se passait bien. Mais vous savez, il suffit de quelques salauds, entre guillemets, pour vous compliquer la vie. Et en effet, être pilote à cette époque, c'était infiniment plus compliqué pour une femme que ça n'était pour un homme, ne serait-ce que pour vivre financièrement. Les femmes, pendant longtemps, n'ont pas pu faire de vols commerciaux. Les compagnies ne leur permettaient pas. Donc pour en vivre ensuite, payer le carburant, s'acheter un avion et vivre tout simplement, c'était très difficile. Et après ces grands exploits, Adrienne va commencer à participer à ce qu'on appelait des meetings, donc des espèces de grands shows aériens qui étaient très très dangereux et très très mal rémunérés. Et elle raconte que parfois, avec ses camarades, lorsque venait l'heure du repas, ils se disaient « bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Et en fait, ils se partageaient un comprimé d'aspirine parce qu'ils n'avaient juste rien à manger.
Ah oui, quand même.
Oui.
Bon, on se retrouve dans 3 minutes, Katel Faria, après avoir écouté Emma Peters traverser ces circonstances.
Je suis toute seule sur un tandem, seule sur un tandem. Personne à qui dire je t'aime. Le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais de Seine. Traverser ma vie, ouais. Traverser. regarde devant, je suis déter.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Katel Faria, on a parlé de la trace laissée dans l'histoire par les femmes aviatrices, elle est moins importante parce que l'histoire est écrite par des hommes, hein, essentiellement. Donc elles ont dû aussi batailler pour s'imposer. Alors imaginez une femme jeune et noire à l'époque.
Oui.
Bessie Coleman, par exemple. Parle-moi de Bessie Coleman.
Alors écoutez, j'ai de l'admiration pour toutes les femmes sur lesquelles j'ai écrit dans mon livre, mais je dois reconnaître que c'est pour Bessie Coleman que j'ai le plus d'admiration, parce qu'elle a dû... C'est une jeune femme qui a passé son enfance au fin fond du Texas, où elle a connu une discrimination absolument épouvantable, à une époque où les lynchages publics sur les Noirs existaient encore. Enfin, étaient vraiment généraux et très très récurrents. Et c'est une femme qui venait d'un milieu très pauvre, qui a réussi vraiment à se sortir de cela pour accomplir de grandes choses. Et ce qui me touche énormément dans son cas, c'est que c'est une femme qui a vraiment mis sa vie au service des deux causes qu'elle défendait, c'est-à-dire la cause noire et la cause des femmes. Elle ne pensait pas vraiment à sa gloire personnelle, elle a vraiment choisi ce destin, non pas tellement parce qu'elle rêvait d'aviation, mais parce qu'elle s'est dit comment je peux défendre d'abord la cause noire, ensuite la cause des femmes, c'est en devenant aviatrice. Et pour ça, elle a dû, comme elle ne pouvait devenir pilote aux États-Unis, elle a décidé d'apprendre le français, d'économiser de l'argent, de trouver des sponsors. Elle a traversé l'Atlantique, elle est arrivée en France, au Crotoy, pour apprendre à piloter. Et ensuite, alors qu'elle trouvait que la vie était quand même plus douce en France, où elle subissait une discrimination incomparable avec celle qu'elle vivait aux États-Unis, elle a décidé de retourner là-bas pour mener de grands meetings et défendre sa cause. Je trouve que c'est absolument admirable. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans cette histoire, c'est de savoir que les deux premiers pilotes noirs de l'histoire, enfin le premier pilote homme noir de l'histoire et la première femme pilote noire de l'histoire, sont tous les deux venus en France pour apprendre à piloter. Ils ont été heureux, qui ont vécu, Bessie est restée 6 mois en France, enfin le temps de passer son brevet. Premier pilote noir de tous les temps, Eugène Boulard, est resté à peu près 20 ans. Et de savoir que la France avait su les accueillir, cela m'a rendue très fière et très heureuse.
Bessie Coleman est morte jeune aussi?
Oui, assez jeune, à trentaine, et d'une manière absolument tragique, comme la plupart de ces femmes d'ailleurs, enfin des pilotes de manière générale. Mais en effet, ils mouraient très jeunes. C'était les risques de le prix de leur liberté, en fait. Ces gens choisissaient de mener leur vie telle qu'ils l'entendaient. Et ils en assumaient tous les risques, d'abord les risques financiers, toutes les privations que ça impliquait, même du point de vue personnel, mais aussi en mettant leur vie en danger. La plupart sont morts assez jeune et en vol.
Le milieu aérien, on va observer quelques chiffres qui n'évoluent pas beaucoup quand même. Le milieu aérien reste encore très masculin, puisqu'aujourd'hui il y a moins de 10% de femmes pilotes de ligne, hein, chez Air France. Mm-hmm. En 2019, 12 femmes seulement étaient brevetées pilotes de chasse. Pire, Virginie Guyot est la seule femme pilote et leader de la prestigieuse Patrouille de France. Comment vous expliquez ces chiffres?
Oh, alors écoutez, c'est vrai que les pilotes que je connais, les pilotes femmes me disent souvent, il y a encore du boulot.
Oh ben c'est ce que ça dit, effectivement. Oui. Il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot. Après, j'ai tendance à penser que les choses vont quand même dans le bon sens et que, notamment ce qui concerne l'armée, par exemple, l'armée de l'air, qui a toujours été le meilleur élève en question féminisme. En effet, Virginie Guillot est la seule femme pilote et leader de la patrouille de France, mais j'étais très heureuse de voir qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, le lieutenant-colonel Claire Mérouz est devenue la première femme à prendre le commandement d'un escadron de chasse. Et donc, j'y vois quand même de beaux signes et signes d'encouragement.
Ça bouge,
oui, ça bouge. Et même les armées, de manière générale, il m'arrive souvent de suivre leurs réseaux sociaux et je vois qu'on essaie de mettre de plus en plus en avant des femmes comme l'incroyable Valérie André, première femme générale de l'armée de l'air. Voilà, les choses évoluent petit à petit, mais ça bouge.
Bon. Alors, on ne laisserait plus de nos jours les pilotes prendre autant de risques, notamment à cause du sacro-saint principe de précaution qui s'applique partout. Vous le déplorez ou vous trouvez ça normal ?
Écoutez, il y a une part des contraintes que je peux comprendre, celles qui sont liées aux infrastructures, au fait qu'en fait, on peut penser que l'air est un espace de liberté, et en fait, pas du tout. Il est
rempli très codifié.
C'est extrêmement codifié, parce que les accidents peuvent arriver très facilement. Donc je comprends qu'on fasse plus attention, mais je trouve que cette volonté sécuritaire est poussée trop loin. Et j'ai peur qu'à force de punir l'audace... On finisse par tuer tout esprit de... par tuer cet esprit d'audace dont on a besoin dans tous les domaines de la société. Et je regrette qu'on encourage beaucoup l'esprit d'entreprise et on encourage la prise de risque financière dans le domaine commercial. Mais il faudrait tuer tout esprit d'audace dans les autres domaines. Je trouve ça triste et je pense que ça fait partie de l'énergie d'un pays, de laisser cela vivre. Mmh. Un peu comme dans les montagnes, je vois qu'on a envie de réguler de plus en plus l'accès aux montagnes et les gens qui s'aventurent seuls. Je pense que c'est une mauvaise chose et que c'est dangereux.
Les prouesses technologiques des avions, est-ce qu'elles sont à présent plus importantes que celles des pilotes ? Est-ce que l'humain passe après la machine ?
Écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire que non, mais bon, ma compétence est quand même limitée pour vous répondre.
Au moins l'impression, quoi.
Mais je crains que... Oui, malheureusement, je pense que les pilotes ont une marge de plus en plus faible pour accomplir des exploits et accomplir de grandes choses. Vous avez toujours des grands pilotes de voltige aérienne comme Catherine Monoury, mais quand je regarde, par exemple, j'ai lu un excellent livre à ce sujet qui s'appelle « Dans la tête d'un pilote de chasse » dont le sous-titre est « Le spleen de l'homme-machine » de Gérard Dubé, et qui raconte comme nos pilotes de chasse, petit à petit, sont en train de devenir des gestionnaires de systèmes qui ne pilotent plus aux fesses, mais qui apprennent pratiquement à gérer des ordinateurs. Et je me dis, en faisant du métier de pilote de chasse un métier de technicien, est-ce que finalement on ne va pas faire fuir les plus beaux potentiels et les grandes âmes ? Est-ce qu'on ne va pas faire venir... est-ce que ça va faire rêver très longtemps ? Est-ce qu'on arrivera à faire vivre le mythe du chevalier du ciel ? J'en doute.
La prise de risque adossée à la liberté, aux sensations, ça peut être le parachutisme, par exemple, dont vous êtes une praticienne.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette démarche-là ?
Alors écoutez, je vais paraphraser cette chère Adrienne Bolland, qui dit une phrase à ce sujet que vous avez dit tout à l'heure, qui me parle beaucoup. Elle dit « Où j'ai peur, j'y vais ». J'ai besoin de trembler. Et elle fait la différence entre la peur et la saine peur et la peur panique.
Trembler, c'est vivre.
Oui, trembler, c'est vivre. Et ce sont des femmes qui, à mon avis, n'avaient pas peur de la mort. Alors, quand on dit ça, on donne l'impression parfois d'être un peu bravage en disant, mais de quoi elle parle? Pas peur de la mort, c'est ridicule, c'est presque dangereux. Non, ce n'est pas dangereux parce qu'il s'agit, elles n'ont pas de peur panique, mais en revanche, elles ont peur, mais elles aiment la dominer. Et moi, je ne suis pas du tout comme elle, pas du tout à ce point-là, mais ce que je cherche dans le parachutisme, c'est ce que j'y trouve.
Oui.
Et c'est vrai que quand j'ai peur, j'ai tendance à me dire « Tu as peur ? Vas-y !»
Donc je tremble, donc je vis.
Oui,
ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Katel Faria.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la traversée de la Cordillère des Andes par Adrienne Bolland, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian de Rumilly.